Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
So, so, gloss, so, so, da.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aigo et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bonsoir Lomé, bonsoir Abidjan, Conakry, Dakar, Libreville. Bonsoir à toute l'Afrique, mes auditrices et auditeurs, panafricains à travers le monde entier. Merci d'être au rendez-vous dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique et bien sûr Radio Canal K en Suisse alémanique. Merci aussi à nos radios partenaires FM Liberté, Radio Déniment, toutes basées aux États-Unis. Après son livre « Le mouton noir » paru en 2014, l'ancien patron de la compagnie Elf, le français Loïc Le Fropigeant, vient de publier un nouveau ouvrage intitulé « Carnet de route d'un Africain, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui ». Quel regard porte Loïc Le Fropigeant sur l'Afrique et sur le Togo, où il a été incarcéré pendant plusieurs mois à la gendarmerie de Lomé suite à une affaire d'escroquerie internationale? À mes auditeurs panafricains, il tentera de répondre dans un instant en ligne en direct depuis la France. Togo, le régime togolais est-il disposé à réaliser les réformes politiques? La perspective d'un rapprochement entre deux grandes entités de l'opposition va-t-elle contraindre le pouvoir de Faure Gnassingbé à opérer les réformes? Eh bien, dans un débat qui se fera dans une quarantaine de minutes, Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, a accepté de croiser le fer avec Dr. Ekwe Ivamaizo, consultant international. Il est également coordonnateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora. À mes auditeurs, merci de nous être fidèles.
Radio Denigbon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Après son livre Le mouton noir, paru en 2014, l'ancien patron de la compagnie Elf, le français Loïc Le Fropigeant, vient de publier un nouveau ouvrage intitulé Carnet de route d'un Africain, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. En résumé à mes auditeurs, il parle de la corruption au sein de la gestion du pouvoir de plusieurs chefs d'État africains. Mais y a-t-il corruption sans corrupteur? Qui est en réalité le voleur en chef? Quel regard porte Loïc Le Fropigeant sur l'Afrique et sur le Togo où il a été incarcéré pendant 40 jours à la gendarmerie de Lomé suite à une affaire d'escroquerie internationale? À mes auditeurs panafricains, il tentera de répondre dans un instant en ligne, en direct, depuis la France. Loïc Le Fropigeant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner en ligne depuis la France. Justement, après Le Mouton Noir en 2014, vous avez publié tout récemment un autre ouvrage que vous titrez « Carnet de route d'un Africain ». Que comprendre alors de ce titre « Carnet de route d'un Africain » Quel regard vous portez sur l'Afrique d'aujourd'hui, Loïc Le Fropigeant?
Dans Carnet de route d'un Africain, j'essaie de rappeler l'ensemble des années que j'ai passées en Afrique, et en particulier dans les pays qui pouvaient avoir du pétrole ou qui étaient pétroliers, puisque c'est l'essentiel de ma vie passée et actuelle. Mais j'ai voulu surtout partir sur des anecdotes. parce que je pensais que pour le public, il fallait que j'aie un peu de chair, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce que j'avais vécu à certains moments de ma vie sur ce continent que j'adore.
D'accord.
Et donc, il fallait qu'ils comprennent mon empathie avec toutes les personnes que j'ai rencontrées et ma volonté de faire marcher ce continent dans les années à venir.
D'accord.
Puisque sa démographie est galopante et qu'il me paraît nécessaire que les Africains prennent leur destin en main.
D'accord.
Ce ne soit pas de l'extérieur que le destin soit pris. Et pour cela, il faut que le business, les hommes d'affaires, les gens qui ont été éduqués en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, que ces gens-là prennent les rênes des affaires et la notion de bien commun. Et parmi les difficultés que nous avons, c'est les gens qui prennent le pouvoir et qui s'y accrochent immodérément.
D'accord. Eh bien, Loïc Lefroy-Prigent, dans votre livre, la corruption occupe une bonne partie de votre témoignage. Elle aurait été légion dans vos rapports avec les pouvoirs africains. D'ailleurs, le Cameroun s'est empressé de faire savoir que le président Paul Biya n'est pas concerné par vos propos quand on parle de corruption. Alors, Loïc Lefroy-Prigent, êtes-vous fier d'avoir activement participé à cette pratique? Est-ce que vous regrettez d'avoir été l'un des plus grands corrupteurs?
Je pense que dire cela est erroné.
D'accord.
Alors, j'ai bien noté que c'était la manière dont certains m'avaient désigné, mais ce n'est pas ce que j'ai expliqué dans mes livres, que ce soit Le Mouton Noir, le premier, ou le second, celui qui est là, et ce livre n'est pas à propos de la corruption. C'est un livre à propos de l'Afrique, et à l'intérieur de l'Afrique,
d'accord,
il se trouve qu'il y a de la corruption. Alors, je reprends mes propos, c'est-à-dire que lorsqu'il y a corruption, il y a corrupteur et corrompu.
Exactement.
Et il est rare que dans un pays dont on dit qu'il est corrompu, les Occidentaux arrivent à vous expliquer qu'ils ne sont pas corrupteurs. Et donc je m'étonne dans ce livre du fait que l'on dise encore aujourd'hui qu'il n'y a plus de corrupteurs occidentaux et qu'il y a néanmoins beaucoup de corrompus en Afrique.
Ok.
Et je dis que ceci est incohérent. Alors maintenant, j'explique ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Et je ne me suis jamais caché. Ce que je constate, c'est que les gens qui ont fait la même chose que moi se cachent et qu'ils continuent à le faire en se cachant.
D'accord.
Et je pense qu'il est temps d'arrêter.
Ok. Il est temps.
Pour le bien de l'Afrique. Mais effectivement, il y a eu des moments où j'ai fait des choses. Je n'en suis pas plus fier pour autant.
D'accord. Et que vous regrettez alors?
Mais si je ne l'avais pas fait à l'époque, eh bien, le développement de mon entreprise et le développement de l'Afrique n'aurait pas été fait.
D'accord.
Et maintenant, ça devrait être fini, puisque tout le monde dit que c'est fini. Or, ce n'est pas fini. Et c'est le problème d'aujourd'hui.
D'accord. Alors, Loïc Lefroy-Prigent, pendant au moins 25 ans, vous étiez patron de la compagnie Pétrolière Elf. Il y avait eu pas mal de contacts en matière d'affaires avec surtout des chefs d'État africains. Alors, n'aviez-vous pas conscience d'avoir enrichi à l'époque davantage les riches puissants despotes, surtout des chefs d'État africains, quand ces derniers paupérisaient encore plus et sans vergogne leur population.
Le problème est de savoir si pendant la période des 4 ans où j'ai été président, puisque j'ai été 4 ans président d'ELF, les pays ont été bien servis par rapport à l'entreprise que je présidais. Je dis qu'aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que les pays avaient ce qu'il fallait pour, en comparaison de ce qu'étaient les autres pays dans lesquels ELF était implantée, au Moyen-Orient ou en Europe ou en Amérique latine. Mmh. Donc il n'y a pas eu de mauvais traitement de la part d'ELF des pays.
D'accord.
Le problème a été la répartition. La répartition. Et dans cette répartition, avant moi, un système s'était installé de manière à ce que il n'y ait pas de complot permanent pour que les présidents ne durent que 3 mois, et pour stabiliser la situation, les pays occidentaux, pas seulement la France, avaient considéré qu'il fallait servir les présidents des États de manière à ce qu'ils aient la capacité d'assurer la stabilité des États. Ce qui était bon pour les entreprises qui investissaient, comme ce qui était bon pour les pays eux-mêmes, parce que l'instabilité, les guerres civiles, ce n'est pas bon pour les gens. Voilà. Alors, c'est la situation que nous avons vécue dans la période qui a succédé à l'indépendance.
Justement, parlant toujours de votre récent ouvrage, Carnet d'adresse d'un Africain, puisque nous le décryptons avec vous pour nos auditeurs, surtout de la diaspora africaine. Alors, Luc Le Faux-Prigent, vous êtes revenu à maintes reprises sur ce que vous appelez l'hypocrisie de la politique africaine de la France. Alors, vous la théorisez par, je cite, vous n'êtes pas quand même pas bien. Mais d'un côté, on laisse faire. Alors, Luc Le Faux-Prigent, la France a-t-elle et les moyens et la volonté de tourner le dos aux dictateurs africains?
Alors, moi, ce que je préconise depuis un certain nombre d'années, et je pense que ça conduit un certain nombre de directions de pays africains à ne pas beaucoup m'apprécier, c'est dire que cette période de stabilité ayant eu lieu, il convient maintenant d'arriver à une situation d'alternance, comme ça a été le cas au Ghana de façon régulière, comme ça a été le cas en Tanzanie de façon régulière, comme c'est le cas au Bénin aujourd'hui dans ce que j'appelle l'Afrique francophone, et que cette période où on avait besoin d'un dirigeant long terme, qui permettait la stabilité, cette période est révolue.
D'accord.
Et le peuple africain a besoin aujourd'hui de sentir la possibilité d'alternative politique, et cette alternative politique conduit forcément à ce que nous revenions sur la politique actuelle de corruption qui est le cancer de l'Afrique.
D'accord. Donc vous pensez que l'Afrique et que la France a les moyens, la volonté de tourner le dos aux dictateurs africains?
J'aimerais que la France ait l'ambition de voir les alternances se produire en Afrique. J'aimerais que ce soit le cas.
D'accord.
Et mon livre est un plaidoyer pour que ça se fasse.
Exactement. Justement, Luc Le Faux-Prigent, dans votre nouvel ouvrage intitulé Carnet de route d'un Africain, vous n'avez pas manqué de parler du Togo. Eh bien, rappelons-le, vous étiez incarcéré pendant 40 jours à la gendarmerie de Lomé en 2013, si je me trompe. Et alors, pour une affaire d'escroquerie internationale. D'ailleurs, le récit complet était mentionné dans votre livre « Le mouton noir ». Mais d'abord, Luc Le Faux-Prigent, revenons à votre récent ouvrage « Carnet de route d'un Africain ». Alors, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Et dans cet ouvrage, vous parlez de l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara. Alors, vous dites clairement que ces marchés n'ont jamais été incendiés par l'opposition. Alors, qu'est-ce qui vous permet de faire cette affirmation, Luc Le Faux-Prigent?
J'étais 5 mois et 11 jours 5 mois et 11 jours, donc ça fait plus de 40 jours, si on veut dire, à la gendarmerie de Lomé, incarcéré dans le bureau d'un adjoint directeur de la gendarmerie. J'ai donc vécu de la gendarmerie ce qui s'est passé dans les opérations de Cara et de Lomé et l'incarcération d'un certain nombre de responsables de l'opposition. J'ai vécu là et j'avais les yeux et les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Et ce que j'ai vu là et les oreilles pour entendre me conduit à dire aujourd'hui que tout le monde savait très bien que ce n'était pas les gens qui étaient arrêtés qui avaient fait quoi que ce soit pour les incendies en question. Tout le monde le savait. Mais c'était l'occasion qui permettait de d'incarcérer et de rendre disponible un certain nombre de membres de l'opposition qui en mettaient le pouvoir en place. Et ça, que je le dise au Togo ou que je le dise ailleurs, je dis dans une démocratie, on ne prend pas des prétextes
d'accord.
faux pour incarcérer les dirigeants. De la même façon que, à l'heure actuelle, au Congo-Brazzaville, il y a des gens incarcérés par le pouvoir sous des prétextes faux, qu'il y a la même chose au Congo-Kinshasa, et que tous les pays qui font ça sont effectivement des pays qui n'ont pas installé la démocratie chez eux et qui vont dans le mauvais sens du développement.
D'accord.
Il faut que les gens de l'opposition soient protégés dans un pays démocratique.
D'accord. Justement, autant pour moi, vous avez fait plus de 5 mois, hein, presque, à la gendarmerie nationale de Lomé, dans cette affaire d'escroquerie internationale. On avait également parlé de Pascal Akousselelou-Boudjouran, l'ancien ministre d'État, que vous connaissez très bien. Alors, quelles sont vos relations avec l'ancien ministre d'État du Togo, Pascal Akousselelou?
Ce que je voudrais dire, monsieur, c'est que lorsqu'on parle de cette affaire, je crois que il faudrait d'abord dire une prétendue affaire.
Une prétendue affaire. D'accord.
Parce que il n'y en a jamais eu, parce qu'il n'y a jamais eu de dossier.
D'accord.
L'individu qui vous parle actuellement n'a jamais vu un dossier sur le sujet. C'est une prétendue affaire qui avait pour but, simplement une fois de plus, de mettre en difficulté quelqu'un susceptible ou des gens susceptibles de contester le pouvoir en place. Ceci n'est pas démocratique.
D'accord. Quelqu'un comme qui, par exemple, le Clouveau Pigeon?
Je pense que Pascal Boudjonard était quelqu'un qu'il fallait absolument salir et qu'on a essayé de salir à travers moi. C'est tout. Point final. C'est ça ma conviction.
D'accord. Eh bien, l'ancien ministre d'État Pascal Boudjonard, que vous connaissez très bien, il est libre depuis un certain temps, suite à cette fameuse affaire d'escroquerie internationale, ou prétendue affaire comme vous voulez. Alors, l'homme avait présenté des excuses publiques à la population togolaise, mais hésite de se lancer en politique. Alors, pensez-vous, là, qu'il faut plus gens, et que le pouvoir voulait l'anéantir par cette affaire d'escroquerie, et du coup, et Pascal Boudjonard est éligible pour de probables élections au Togo?
Je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire que moi, vous ne pouvez pas dire je connais bien Pascal Boudjonard. Comme si j'avais fait quelque chose avec. Non, je ne connais pas bien Pascal Boudjonard. À l'époque où je suis incarcéré, je l'ai vu 2 fois.
Ok.
Deux fois. Donc, quand on voit quelqu'un 2 fois, on ne peut pas dire je le connais bien.
D'accord.
Donc, de la même façon que vous ne pouvez plus continuer à dire escroquerie internationale, vous voulez dire prétendu à faire l'escroquerie internationale, de la même façon, vous ne pouvez pas dire dans votre question que je connais bien parce que vous n'avez pas le droit de dire ça, ce n'est pas vrai.
Tout à fait. D'accord.
Alors, une fois que vous avez dit ça, moi, c'est les Togolais qui savent si Pascal Boudjonard a envie, n'a pas envie, d'être président, et c'est votre problème. Je ne vais pas écrire un livre en disant c'est aux Africains de faire le travail pour arriver aujourd'hui à vous dire à l'antenne que c'est moi qui vais déterminer qui peut être ou ne peut pas être président. C'est pas mon métier. C'est le métier du peuple togolais de savoir ce qu'il veut.
D'accord. Et donc, dans cette affaire, vous l'avez plusieurs fois dit, c'est pour salir également Pascal Baudouin. Et qu'on avait inventé cette affaire d'escroquerie internationale, lorsque le faux président, une dernière question pour vous libérer en direct depuis la France. Alors, vous venez de publier un ouvrage intitulé, je l'avais dit, Carnet de route d'un Africain, un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Vous avez eu une aventure désastreuse avec le Togo, bien sûr. Les citoyens espèrent l'opération des réformes politiques dans ce pays afin de remettre le pays sur les rails et organiser les élections libres et transparentes. Mais ces réformes sont toujours bloquées à l'Assemblée nationale. Alors, le statu quo autour des réformes n'avantage-t-il pas les entreprises françaises, notamment le groupe Bolloré, qui, selon les indiscrétions, soutient fortement le régime togolais? Est-ce toujours la France-Afrique qui continue, lorsque le faux président?
Je crois qu'il faut distinguer entre ce que fait la France et les Français et ce que fait tel ou tel groupe, qu'il soit français, américain, chinois ou russe. Il faut éviter de confondre les deux.
D'accord.
Alors, moi, je conteste que la France ait quelque chose à voir avec le changement ou non du régime togolais. La seule chose que moi je conteste, c'est qu'il y ait une sorte de dictature héréditaire dans un pays. Ça, je conteste cette position. Mais ce que fait telle ou telle entreprise pour maintenir cet état de choses, si jamais je l'observe, je le conteste. Pour l'instant, je n'ai pas les éléments me permettant de dire que telle entreprise est pire qu'une autre. C'est-à-dire que globalement, il y a beaucoup d'entreprises qui, à mon avis, jouent un jeu dangereux à l'égard des dictatures et que je conteste le fait qu'elles doivent continuer, et j'engage les hommes d'affaires comme les États et en particulier le gouvernement français à ne pas rentrer de nouveau dans le jeu qui m'apparaît tout à fait pernicieux.
Le faux président, vous qui souhaitez un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui, avez-vous un mot à l'endroit des peuples africains, notamment ceux du Togo?
Écoutez, c'est un peuple absolument merveilleux. J'y ai des amis qui resteront mes amis toute la vie, parce que c'était une période difficile de la mienne. C'est-à-dire que j'ai cru perdre la vie, et donc j'espère qu'un jour ils retrouveront la sérénité indispensable et le développement de leur pays avec leur plein épanouissement personnel, ce qui n'est pas le cas, puisque ils n'ont pas les éléments clés de la dictature, c'est d'être du Nord et d'être obéissant. Donc, il faut éviter que la sélection des élites se fasse par le fait qu'ils soient du Nord, de Kara et obéissant, ce qui est le cas aujourd'hui.
En tout cas, merci beaucoup, Locke Lofo-Prigent. Vous venez de publier un livre, Carnet de route d'un Africain, et un autre regard sur l'Afrique d'aujourd'hui. Merci et bonsoir.
Chez Amazon. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous et
voilà.
Bonsoir.
Au revoir.
FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, avant de prendre nos invités depuis Lomé, depuis ils viennent en Autriche, accueillons d'abord notre correspondant au Togo, Rodrigue Ayego. Rodrigue Ayego, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à toutes et à tous.
Eh bien, Rodrigue Ayego, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé pour le briefing sur l'actualité de cette semaine au Togo. Bien, Rodrigue, le campus universitaire de Lomé est devenu un champ de bataille depuis quelques jours. Des étudiants sont bastonnés, certains dont Sativi Folie, le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, LTDE, sont arrêtés et jetés en prison par les gendarmes et policiers qui ont assiégé l'université de Lomé. Alors, Rodrigue Ayego, que comprendre de cette situation et quelle lecture faire de l'arrestation de Sativi Folie?
Effectivement, Sylvain, Sativi Folie et Amagbenyo Marius passent leur troisième nuit à la prison civile de Lomé. Leur arrestation dans des conditions totalement inhumaines et dégradantes, avec des coups de matraque, des bastonnades laissant des traces sur leur corps, fait suite à une manifestation estudiantine organisée par la Ligue togolaise des droits des étudiants LTDE pour contraindre le ministre de l'enseignement supérieur Octave Nikwe-Broom et le président de l'université de Lomé, professeur Dodi Kokoroko, à augmenter les tranches, les sortir avant le début des examens, supprimer les critères dits bizarres qui empêchent un grand nombre d'étudiants d'avoir les tranches, etc. Un mercredi pas comme les autres. Doit-on parler de guet-apens? Tu portes à croire que Sativi Folie était très attendue par ses ravisseurs. La convergence des étudiants vers le point de rassemblement indiqué pour la tenue de l'Assemblée générale de la LTDE a tout de suite provoqué une réaction des gendarmes et policiers déjà présents dans l'enceinte de l'université. Chose étonnante, surtout que la franchise universitaire interdisait bel et bien cette présence de corps habillés à l'université de Lomé. Mêlé aux vigiles de l'université, le coup était parfait. Dans des conditions troubles, jets de gaz lacrymogène, course-poursuite, bastonnade, hurlements des étudiants sous les coups de matraque que leur assainirent les corps habillés, le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, Sativi Folie, et son collègue venaient d'être enlevés. Puisque ça gazait et courait de tous les côtés, les étudiants n'avaient pu rien faire à part protéger leur propre tête. Une marée de fumée était visible et planait dans le ciel de l'université, on dirait des échappements d'usines crachant des fumées. Ce n'était que des gaz lacrymogènes qui pleuvaient ainsi. Les étudiants venaient d'être dispersés. La toile était bondée de messages qui informaient du kidnapping de Sativi Folie qui, selon les informations recueillies auprès des étudiants, ne serait pas reconnu par les autorités estudiantines comme étudiant pleinement inscrit. Ces autorités estudiantines soutiennent que Sativi Folie ne s'est même pas inscrit cette année. Certaines indiscrétions parlent d'un bandit qui venait semer le trouble à l'ordre public et des campagnes médiatiques sont organisées à ce propos par les autorités universitaires qui circulent sur les médias pour véhiculer des propos jugés mensongers par les étudiants. De tristes réalités qui témoignent d'un acharnement gratuit contre la personne de Sativi Folie. Comment peut-on comprendre cette déclaration des autorités universitaires qui indique que Sativi Folie n'est pas un étudiant, mais un bandit qui vient semer le trouble sur le campus, si au même moment, selon nos informations, le président de l'université, professeur Dodi Kokoroko lui-même, a sorti des sous de sa poche pour payer une salle qui a abrité les activités marquant la célébration du premier anniversaire de la LTDE que préside Sativi Folie en tant qu'étudiant. Comme une réponse du berger à la bergère, des documents justifiant l'inscription de Sativi Folie en année de licence en droit privé à la faculté de droit, notamment la fiche d'achat des unités d'enseignement portant le numéro de carte 386621 et visée le 16 décembre 2016 par le responsable CIP de la FTD, se multiplient sur les réseaux sociaux, justifiant ainsi que c'était un coup préparé pour nuire à ce jeune engagé qui ne lutte que pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants de l'université de Lomé. Des organisations de la société civile se mobilisent pour soutenir les détenus, dont le nombre connaît une augmentation. Selon un communiqué rendu public par le Collège des délégués de l'université de Lomé, 15 des 19 étudiants jetés en prison auraient été libérés. Dans une déclaration publiée à ce propos, 11 associations de la société civile, à savoir AJAAH, Action Sud, CRAF, Mouvement Nouveau Citoyen, Novation Internationale, Novox, Solidarité Planétaire, TJP, REJAD, MDE, MED, suite à une visite rendue aux détenus, recommande la libération de tous les détenus pour faire revenir un climat d'apaisement sur le campus, tout en poursuivant le dialogue pour un dénouement heureux de la crise. Depuis la prison civile de Lomé, le président de la LTDE, Sativi Folie, appelle ses camarades à maintenir la flamme jusqu'à satisfaction totale des revendications légitimes destinées à garantir de meilleures conditions d'études à l'université de Lomé.
Eh bien, merci, Brody Gaïgo, pour votre commentaire et analyse sur cette arrestation de l'étudiant Sativi Folie et ses camarades. André Gallego, vous parlez de surprise et d'indignation face à la déclaration du ministre Yak Demian qui soutient que Alabi Nadjourdin a été tué par une balle perdue. Qu'en est-il, André Gallego?
Propos scandaleux peut-on dire de cette sortie du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à propos de l'assassinat de Alabi Nadjourdin? Selon le colonel Yark Damian, Alabi aurait été tué par une balle perdue. Le ministre Yark s'est prêté à l'exercice de questions-réponses devant les parlementaires à propos des différentes situations d'insécurité qui hantent l'esprit des Togolais. Si hier, dans le cadre des tristes événements de Dapaon, le ministre a essayé de se dédouaner en soutenant que soit les freins du char ont lâché pour faciliter l'écrasement des manifestants, ou encore des tirs de sommation tirés en l'air ont dans leur chute tué d'autres manifestants, ou lorsque des gaz lacrymogènes avaient été lancés dans une église, celui-ci avait indiqué que c'était le vent qui les avait emportés dans l'église. Aujourd'hui, le ministre soutient que le jeune Alabi, fauché par les balles assassines des militaires qui, on ne sait par quels moyens ni dans quelles conditions, se sont retrouvés dans l'appareil de maintien d'ordre et de sécurité lors de la manifestation pacifique spontanée des consommateurs en réponse à l'augmentation unilatérale des prix à la pompe des produits pétroliers. Cette déclaration du ministre Yark qui a dû se rébiffer pour indiquer que des balles qui ont tué Alabi ont été tirées par des militaires, surtout que dans un communiqué publié au lendemain de l'assassinat, le colonel Yark mentionnait qu'il n'avait pas donné l'ordre de déverser les militaires ni de tirer, résonne comme une tentative de protection d'un assassin bien connu et aussi constitue une insulte à la mémoire de ce martyr qui ne réclamait que son droit. Ces propos suscitent des commentaires et des indignations sur les réseaux sociaux. Outre cette sortie du ministre devant les parlementaires, il a rencontré la presse pour faire l'état des lieux des accidents de la route. Selon le ministre, entre le 1er janvier et le 11 juin, 2559 cas d'accidents ont été enregistrés sur les routes togolaises, avec 5215 blessés et 315 morts, soit 57 morts par mois. En clair, deux personnes sont mortes par jour au Togo par accident de circulation durant cette période. Plus de 65% des accidents sont causés par des engins à deux roues. Comme cause, le ministre pointe du doigt l'excès de vitesse, le défaut de maîtrise, la violation des feux tricolores. En matière de criminalité, le ministre Yark Damian indique que 19 cas de braquage ont été enregistrés et ont causé 11 blessés. On dénombre 22 vols à main armée avec 18 blessés, 49 meurtres et lynchages, 61 cambriolages et 14 vols de voitures, 67 cas de faux et usage de faux de chantage à vidéo, d'arnaque au Love Chat et 16 cybercriminalités sur la même période. L'opération Entonnoir, quant à elle, a permis aux autorités en charge de la sécurité de saisir 310 970 litres de carburant de contrebande. À ces saisies, on ajoute 47 vendeurs de carburant emprisonnés, l'incendie de deux bâtiments et 22 morts. Malgré ces chiffres alarmants, parlant de la traque des vendeurs de boudin, le ministre Yark insiste sur la poursuite et l'intensification de l'opération Entonnoir. De jour comme de nuit, qu'il pleuve ou qu'il neige, nos services ne baisseront pas les bras, a-t-il déclaré.
Merci beaucoup, Rodrigue Ayego, pour ce briefing sur l'actualité sociopolitique de cette semaine au Togo. Je rappelle que vous êtes notre correspondant permanent à Lomé au Togo. Merci et bonsoir.
TogoCity.com. Ici Lomé.com. TogoActualité.com. Togo-online.co.uk. CRDTogo.com. Sur nos sites, partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, mes auditeurs, avant le débat sur les questions autour des réformes politiques, nous allons d'abord prendre au téléphone depuis Lomé deux confrères pour commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo de cette semaine. Eh bien, accueillons en premier Ferdinand Haïti, directeur du journal L'Alternative. Ferdinand Haïti, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous les auditeurs de Canal K.
Eh bien, Ferdinand Ité, vous titrez à la une de votre parution cette semaine, je cite, hein, « Nouvelle politique africaine d'Angela Merkel. Sans les réformes, l'Allemagne prendra désormais ses distances. » Alors, Ferdinand Ité, croyez-vous que c'est une forme de pression de l'Allemagne sur le pouvoir de Faure Gnassingbé pour le contraindre à opérer les réformes?
Non, et il s'agit pas seulement du Togo, non, il s'agit de l'Afrique en général.
D'accord.
C'est la nouvelle forme de la coopération allemande. Mm-hmm. Nous avons eu l'opportunité d'être à Berlin il y a quelques jours sur la problématique des migrants. Mm. Et nous avons profité de ce séjour avec 6 autres rédactions africaines pour visiter des centres de migrants, visiter des foyers, rencontrer des Africains qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi. Et puis à la fin, nous sommes rendus au ministère des Affaires étrangères allemand où nous avons eu la primeur d'avoir les informations sur cette nouvelle politique de l'Allemagne vis-à-vis de l'Afrique. Vous savez que le flux des migrants envers l'Europe inquiète, ça inquiète énormément l'Allemagne et tous les pays européens. Et en plus de cela, les prévisions de croissance démographique en Afrique ne rassurent pas. D'ici 2050, la population de l'Afrique va dépasser les 2 milliards d'habitants, en majorité jeunes. Et il faut, pour maintenir tous ces jeunes sur le continent, créer plus de 20 millions d'emplois par an, ce qui est totalement impossible. Et donc, pour endiguer tout ce phénomène-là, l'Allemagne est dans l'anticipation. Donc, ils ont élaboré une nouvelle politique pour l'Afrique, une politique qu'ils veulent étendre à l'ensemble de l'Union européenne en tirant les leçons de tout ce qui a été fait avant et qui a débouché sur des échecs.
D'accord.
Et donc, c'est le nouveau plan Marshall, un peu à l'image de MCC américain, mais avec des critères très rigoureux. Il faudra désormais agir sur plusieurs axes, notamment le privé pour stimuler la création de l'emploi, l'investissement. Ensuite, combattre les flux et financiers illicites, travailler pour l'enracinement de la démocratie, les droits de l'homme, lutter contre la corruption, lutter contre tous tous ces Africains qui détournent de l'argent pour acheter des appartements en Europe. Donc c'est une nouvelle politique dont la charpente s'est déclinée sur plusieurs axes et dont on a eu l'opportunité de d'avoir été briefé au ministère des Affaires étrangères à Berlin. Du coup, le Togo se retrouve dans une situation assez difficile parce que nous avons posé la question aux Allemands et ils nous ont dit mais le Togo ne fait pas d'efforts et donc vous aurez dû constater que en prévision au sommet du G20 qui se tiendra le 8 juillet prochain, l'Allemagne a invité certains pays africains à un mini sommet. Le Togo n'a pas été invité
dommage.
En dépit du fait que le président togolais assure aujourd'hui la présidence de la CEDEAO. Pour les Allemands, le Togo ne répond pas pour le moment aux critères d'un pays démocratique. Il reste beaucoup de choses à faire. Et donc, au cours de cette rencontre à Berlin, les 12 et 13 juin dernier, l'Allemagne a commencé par 3 pays pilotes qui, plus ou moins, tiennent à quelques engagements, notamment le Ghana, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Chaque pays a reçu à titre d'expérimentation 100 millions d'euros pour un premier décaissement. Et donc, le message, c'est que vous faites les réformes, l'Allemagne sera à vos côtés.
D'accord.
Vous ne faites pas les réformes,
ils sont clairs,
l'Allemagne ne vous accompagnera pas. Et donc, tout ça remet en cause tout le tintamarre qu'on vit ici à Lomé, où on fait croire que entre l'Allemagne et le Togo, c'est le printemps, tout le temps, on ramène des délégations allemandes ici, et une fois que des gens boivent des coupes de champagne en partant, font des déclarations dithyrambiques.
D'accord.
Mais la réalité, quand vous allez à Berlin ou quand vous discutez même avec l'ambassadeur d'Allemagne au Togo ici, est autre chose. Donc, le Togo est à la traîne et c'est vraiment bien triste pour notre pays. Voilà.
En tout cas, c'est vraiment triste pour notre pays, comme vous venez de le dire. Et donc, merci également à Ferdinand Ité de nous avoir mis au parfum de la position de l'Allemagne par rapport à ces réformes-là qui tardent à se faire au Togo. Et Ferdinand Ité parlant toujours de ces réformes puisque ce sujet défrait la chronique ces derniers temps au Togo. Et bien cette semaine, Christophe Tchao, président du groupe parlementaire Unir, parti au pouvoir, estime qu'il faut conditionner l'opérationnalisation des réformes à une mise à zéro du compteur et concernant la limitation du mandat présidentiel. Alors ce qui porte un coup à la non-rétroactivité de la loi. Alors Ferdinand Ité, quelle est votre analyse sur cette sortie de Christophe Tchao?
Je crois que depuis plusieurs mois, les responsables de Unir fuyaient les médias. S'ils se sont décidés ces jours-ci à sortir Bawara sur Africa 24 et Tchao sur les médias Lomé, c'est que bon, ces gars sont en train de préparer encore un coup contre le peuple togolais. Vous savez
vous le,
que
vous le pensez vraiment, Ferdinand?
Fonia Simbe refuse systématiquement de faire les réformes. Ça, je l'ai dit depuis des années. J'ai dit qu'il fera jamais les réformes. On ne demande pas à une dictature de faire des réformes. Il fera jamais les réformes. Il pense que il a l'avantage aujourd'hui d'avoir affaibli l'opposition. Donc, il n'y a rien en face de lui. Donc, il fait ce qu'il veut et il fera jamais les réformes. Mais pire, il veut franchir un autre palier. C'est cette histoire de nouvelle constitution qu'il a confiée à ces universitaires-là, les Kokoroko, Kodar et toute leur bande de juristes qui se mettent aujourd'hui au service de la dictature. Et donc, ces gars ont fini de rédiger cette fameuse constitution où ils proposent un septennat. Et donc, la sortie des Tchao de Jibé Bawara, c'est un ballon d'essai. Lorsqu'ils disent qu'il faut mettre tous les compteurs à zéro, c'est un ballon d'essai pour qu'ils puissent sortir par derrière leur nouvelle constitution et l'imposer au peuple togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous voyez, ces gens ne bougeront jamais tant qu'ils n'auront pas un rapport de force conséquent en face. Ça, moi, je l'ai toujours dit. Les histoires de dialogue, de réforme, tout ça, c'est du temps perdu. Il faut travailler à mettre en face de ces gens les Togolais. Il faut faire comprendre aux Togolais que c'est eux qui ont la solution. Et lorsque le peuple togolais va véritablement va se décider à régler le problème, je crois qu'ils vont, ils vont comprendre que ils ne peuvent pas continuer de se moquer des gens comme ça. Moi, j'ai toujours dit dans ce pays, et je l'assume toujours, qu'aucune élection ne débouchera au départ de ces gens-là. Au contraire, les élections continuent à entretenir même le coma de cette dictature-là. D'accord. Regardez toutes les élections qu'on a organisées depuis 1993 jusqu'à ce jour, le pouvoir s'en est toujours sorti avec la bienveillance de la communauté internationale. Après, on demande à l'opposition d'aller au dialogue et l'opposition va au dialogue et finit par céder le peu même de territoire qu'il a. Et donc, ces gens-là, il faut leur appliquer la thérapie de choc, c'est tout. Il faut trouver un moyen pour les dégager. Il ne s'agit plus aujourd'hui de dire, bon, on va négocier, on va faire ci, on va trouver un consensus. De quel consensus il s'agit? Il faut trouver un moyen d'appeler les peuples togolais à dégager ces gens-là. C'est comme ça que ça s'est passé dans tous les pays. Tant qu'on ne va pas faire le sacrifice, on ne va pas pouvoir nous libérer. Je crois que ce soit dans les pays comme la France, les États-Unis, tout ça, les gens se sont libérés à coup de sacrifice. Les Togolais doivent faire le sacrifice et se libérer. Si on ne le fait pas, bon, écoutez, Fonia Singuer, qui ne voit aucune force devant, restera. Et vous verrez bien que l'opposition, dans son ensemble, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, avec plusieurs chefillons dans tous les quartiers, plusieurs chefs dans tous les coins, chacun se revendiquant chacun disant ayant la méthode plus que l'autre, ces gens-là vont accompagner le régime comme ils l'ont toujours accompagné. Donc, moi, je pense que à un moment donné, il faut décider de mettre fin à tout ça. Et ce travail incombe en général au peuple, la société civile, la diaspora. Il faut s'organiser pour mettre fin à ce système. L'opposition dans son état actuel est en déconfiture, tous les partis confondus. Moi, je veux pas faire de je veux pas. Tous les partis aujourd'hui sont très faibles. Les gens n'ont plus le moyen de leur action, donc ils se contentent d'accompagner le régime à travers des élections truquées. Et puis après, on vient jouer le peuple avec des dialogues dont les personnes respectent les accords. À un moment donné, il faut décider d'arrêter tout ça. Et je pense que c'est le travail de tous les Togolais. Et tant qu'on ne le fera pas, le pouvoir va continuer de nous narguer et on écoutera les lucubrations de ces individus comme Tchao sur les médias qui pensent que les Togolais sont bêtes et qu'après 50 ans du régime de Nya Singbe, il faut mettre les compteurs à zéro pour permettre à Faure de faire encore 14 ans au pouvoir. Il faut arrêter tout ça. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Et c'est aussi en partie la responsabilité de l'opposition. Et personne ne tire les leçons des échecs du passé. La folie, c'est toujours faire les mêmes choses et de vouloir s'attendre à des résultats différents. Il faut à un moment donné arrêter tout ça et se dire bon, mais nous en appelons au peuple pour mettre fin à la dictature. Quoi qu'il en soit, le Togo, c'est une dictature, il faut pas se tromper, c'est une dictature, il faut l'appeler ainsi et mettre fin à la dictature. Si vous ne savez pas que la nature du régime, c'est une dictature, et que vous continuez pas à rentrer dans des jeux d'élections locales, d'élections je sais pas quoi, ils vont continuer pas à s'en réjouir parce qu'ils ont déjà truqué le fichier électoral.
Eh bien, ils ont déjà truqué le fichier électoral. Là, Ferdinand, vous l'avez bien dit, hein. Donc, vous avez aussi pointé du doigt la responsabilité de l'opposition. Et justement, 11 partis politiques de l'opposition ont réaffirmé dans une conférence de presse la semaine dernière leur unicité d'action pour obtenir les réformes. Alors, de l'autre côté, Ferdinand Haïté, on ne sent pas la société civile togolaise sur la question. Est-ce que vous faites le même constat, hein? Que comprendre alors de leur silence, Ferdinand Haïté?
Moi, je suis personnellement un peu réservé par rapport à cette histoire des partis politiques, groupe des six et groupe de quoi qui se mettent ensemble.
Pourquoi, Ferdinand? Pourquoi?
On a vu dans ce pays des regroupements qui n'ont rien donné. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit quelque chose vraiment de sérieux.
D'accord.
J'attends de voir parce que
vous êtes symptômes,
entre ces partis-là, les divergences sont énormes. Moi, on ne serait pas surpris que dans quelques mois, à l'approche, lorsqu'on va agiter le foulard des élections législatives, ça va aller dans tous les sens et que certains décideront d'y aller, d'autres diront non, on ne va pas y aller. Et puis bon, voilà, le peuple sera encore sans repère. Et donc moi, je pense que la seule issue aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble pour appeler le peuple à dégager le régime. Si c'est les gens se mettent ensemble pour faire des communiqués, faire des conférences de presse pour dire qu'il faut les réformes, rien ne pousse le régime aujourd'hui à faire les réformes. Si le régime n'a aucune pression, il ne fera pas les réformes. Et de toutes les façons, les réformes ne participeront qu'à édulcorer la dictature. Il faut carrément poser le problème et dire bon, maintenant ça suffit, c'est quand ça suffit, il faut que les gens la partent. Et il faut se fixer des objectifs. Moi, je reste vraiment réservé. J'attends de voir si cette histoire de 11 partis de l'opposition qui se mettent ensemble va aboutir à quelque chose. Je n'y crois pas du tout parce que déjà à deux, les gens ne sont pas capables de se mettre ensemble. Et quand ils sont à 11, il faut voir, c'est comme une usine à gaz. Moi, je suis très circonspect. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais moi, je n'y crois pas trop. L'idéal aujourd'hui, c'est que les gens tirent les leçons de leur échec.
Exactement.
Et se disent, bon, mais nous n'avons pas pu. Il faut que nous cédons la place à ceux qui peuvent. Il y a des gens, des stratèges dans la diaspora, au pays. Des gens peuvent organiser autrement et mieux la lutte, trouver les moyens. Je pense que c'est cette humilité-là que ceux qui sont devant aujourd'hui n'ont pas. Et ils continuent de fabriquer des regroupements pour, je sais pas, pour je ne dirais pas, pour accompagner le régime, mais ces regroupements ne donneront rien. Je suis désolé, ça va aller dans tous les sens bientôt.
D'accord.
Mais
ça,
moi,
votre
je souhaite
opinion,
que
même,
les Togolais comprennent que pour régler ce problème-là, il faut que nous sortions du cadre partisan.
D'accord.
Tant qu'on sera dans le cadre partisan, on aura toujours des clivages et on ne pourra jamais avancer. Ça fera le jeu du pouvoir. Il faut véritablement remettre la balle dans les mains des populations.
D'accord.
Et puis après, bon, on fera la vraie politique après si les choses se décantent. On a vu ça au Burkina, on a vu ça en Gambie, moi j'étais dans les deux pays. Et ces gens-là, on peut pas dire qu'ils sont plus intelligents que nous. Donc
pas
à un moment donné, il faut que les gens fassent leur propre bilan, fassent le point de leur chemin parcouru et essaient de tirer les leçons et se disent, bon, là où nous sommes arrivés au bout du rouleau, notre position n'est qu'une position qui favorise le régime.
D'accord.
Il faut que véritablement nous puissions céder le passage pour que ceux qui peuvent reprendre la lutte, le flambeau de la lutte, le reprennent pour mettre fin à ce système qui a trop duré, qui a vraiment abîmé notre pays.
En tout cas,
voilà ce que moi je pense de tout ça.
En tout cas, merci beaucoup Ferdinand Haïté. Je rappelle que vous êtes le directeur du journal L'Alternative. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Bonsoir.
Merci Sylvain Amos, merci infiniment. Je salue tous les amis, les auditeurs et puis nos amis de la diaspora. À plus tard. Merci. Bon week-end.
Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, nous accueillons aussi en ligne depuis Lomé, Ildefonso Akpaki, qui est le directeur du journal La Gazette du Golfe et du journal en ligne et vidéo La Gazette du Togo. Ildefonso Akpaki, bonsoir.
Bonjour Sylvain Amos, bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Canal K. Bonjour à toute l'équipe de Canal K qui s'active pour porter l'information à toute la diaspora africaine. Et bonjour à toute la diaspora africaine, bonjour surtout à celle togolaise.
Eh bien, Ildefonso Akpaki, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Votre journal La Gazette du Togo fait de nouveau son apparition sur le marché des médias au Togo. Eh bien, chers amis, chers confrères, bravo à vous, car ce n'est pas si facile pour la presse togolaise, surtout privée, et très critique à l'endroit du pouvoir de bénéficier des subventions Togo. Alors, Ildefonso Akpaki, vous titrez à la une de votre journal cette semaine, je cite, « Les populations s'interrogent ». Que comprendre des mots qui sont à l'origine de la crise togolaise? Ildefonso Akpaki, est-ce que vous avez la réponse?
Amos, vous me demandez de répondre à l'interrogation parue dans le journal La Gazette du Golfe qui vient de renaître. La question qui repose sur le fait que je cite les populations s'interrogent. Que comprendre des mots qui sont à l'origine de la crise togolaise? Oui, Amos, que comprendre de ces mots-là? Vous savez que, d'abord, je tiens à préciser que, après cinq ans où, conformément aux règles qui régissent le code de la presse et de la communication au Togo, la RAC a finalement voulu renouveler le récépissé à la Gazette du Golfe à travers ma personne, directeur de publication. Alors c'est une joie de retrouver la plume.
Une joie partagée.
Que nous soyons actifs sur le réseau ou les réseaux, je voudrais partager cette joie avec toute la diaspora africaine et togolaise.
Nous en sommes fiers également. Alors, à la rédaction.
Revenons de Fidesz Lafrique. À la question.
Allez-y.
Il faut situer le mal togolais à plusieurs niveaux.
D'accord.
Puisque, répondant justement à cette interrogation, je cite, que comprendre des mots qui sont à l'origine de la crise togolaise,
depuis 50 ans,
nous devons, honnêtement, nous appesantir sur le manque de vérité, de sincérité et de justice dans le comportement et l'exact quotidien que pose
les acteurs politiques.
Surtout les premiers dirigeants de notre pays. Vous savez que un État, ce sont les lois qui le régissent. Si ces lois-là viennent à être violées quotidiennement par ceux-là même qui sont garants, qui en sont les garants, la République est en danger. Voilà pourquoi nous mettons un accent particulier d'abord sur le respect des textes et lois qui régissent l'État togolais et qui sont quotidiennement violés par ceux-là même qui en sont les garants. Si dans un État, les premiers responsables qui doivent être des exemples sont devenus des premiers violateurs des textes et lois qui régissent cet État-là, l'État est en danger. Vous voyez que la Constitution togolaise, qui est le père de tous les Togolais, inscrit en son article 74 et fait obligation au chef de l'État de présenter l'état de la nation devant les députés. Demander au chef de l'État, le premier citoyen, de faire l'état de la nation, c'est de présenter comment va la République, les mots qui minent la République, les solutions à leur apporter. Mais s'il ne le fait pas pendant 12 ans qu'il est à la tête de l'État togolais, alors qu'il est le premier responsable qui doit être garant du respect de la Constitution, nous sommes en danger.
En danger.
Et puis après, l'article 145 qui lui fait également obligation à lui et à un certain nombre d'autorités du pays de déclarer leur avoir et leurs biens.
Ils l'ont jamais fait.
Cet article aussi n'a jamais été respecté par le chef de l'État depuis qu'il est à la tête de l'État togolais. En dehors de tout cela, vous devez remarquer également qu'il y a un manque de vérité dans tout ce que les auteurs, les acteurs, excusez-moi, les premiers responsables de l'État togolais posent. J'en ai pour preuve le dernier collectif budgétaire qui a été fait à la suite même de l'organisation du sommet sur la sécurité maritime. Et vous en avez fait cas la dernière fois dans l'émission avec François. Et c'est là que beaucoup de citoyens togolais, y compris nous-mêmes, on a pu comprendre le langage de mensonge que le régime togolais a l'habitude d'utiliser.
D'accord.
Le collectif budgétaire qui a été fait pour ressasser les dépenses effectuées nous parlait de qui ont été achetés par l'État togolais. Alors que, avec les enquêtes qui ont été faites par Jeune Afrique, on a découvert que non seulement ce n'est pas 4 hélicoptères, plutôt c'est 5 hélicoptères, mais que ces hélicoptères-là n'ont pas été achetés, comme le collectif budgétaire l'a mentionné, puisque deux ministres français, surtout l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'y ont opposés. Et pourtant, au pays, on nous a fait croire que ces hélicoptères-là ont été achetés. Voilà le mensonge qui est érigé comme système de gouvernance au Togo. Nous avons également parlé de cette question de sécurité, le manque de sécurité. J'ai entendu le ministre de la Sécurité avant-hier se prononcer sur les événements malheureux qui endeuillent l'État togolais, le pays, et se prononçant sur la manifestation des conducteurs du 28 février dernier et parlant précisément de l'assassinat, je dis bien de l'assassinat du compatriote Alabi, il disait que c'est une balle perdue qui l'a fauché. Il
dommage.
A dit que c'est un dommage. Tir avant de se rétracter en disant des tirs. Vous voyez que chaque fois que ces actes se posent au Togo et que les premiers responsables viennent à mentir,
c'est dommage.
Cela met en danger la sécurité des citoyens togolais.
Justement, Idelvos Akpaki, parlons justement de la sécurité des Togolais. Et les étudiants ne sont plus en sécurité au campus universitaire. Des étudiants togolais de l'Université de Lomé, justement, sont en colère. Et pour cause, Satievi Foli, président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, est arrêté en plus de quelques-uns de ses camarades qui sont actuellement en prison civile de Lomé. Et ces étudiants manifestaient jeudi dernier pour oui, les meilleures conditions d'études a-t-on appris. Alors, Idelvos Akpaki, que reproche-t-on à ces étudiants?
Alors, comprenez, Sylvain Amos, que l'arrestation de Satievi Foli, cet étudiant brave, qui ne demande qu'à obtenir pour lui
conditions.
Et pour tous les étudiants du Togo des conditions de travail et de vie les meilleures, comme c'est le cas dans toutes les universités africaines. Alors, et comprenez également que son arrestation repose sur juste une formule qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Parce que tout ce que les autorités universitaires du Togo racontent sur la personne de Satievi, tout cela est faux. Vous avez vu sur les réseaux sociaux ces documents qui ont été publiés, sa carte d'étudiant. Et pire, il a été bénéficiaire même d'une aide. S'il n'était pas étudiant, est-ce qu'il peut bénéficier de cette aide-là?
C'est la question qu'on se pose.
On veut juste le neutraliser.
D'accord.
Et comme c'est un système du pouvoir en place, lorsque vous devenez de plus en plus dérangeant, soit on vous assassine, ou on vous envoie en prison, ou bien on fait tout pour que vous soyez un exilé. Comprenez juste que c'est ce qui arrive avec notre frère Satievi Foli. Okay. Et c'est l'occasion non seulement de galvaniser tous les étudiants, de leur dire que personne ne viendra revendiquer à leur place la satisfaction de leur doléance. Personne, sinon eux-mêmes, parce que c'est eux qui vivent les réalités sur le campus universitaire du Togo.
Exactement.
C'est également l'occasion de dénoncer l'attitude même brutale, animale et féroce des forces de l'ordre. Aujourd'hui, il me plaît de vous faire cette confidence.
Allez-y.
Nous avons remarqué, à travers toutes les confidences qui nous ont été faites, toutes les informations issues de nos investigations, que la gendarmerie regorge de militaires, qu'on envoie pour la plupart du temps sur ces genres de manifestations. ils sont habillés comme des gendarmes. En réalité, ce sont des militaires. Oui, et cette confidence m'a été faite. Aujourd'hui, je le dévoile à la face du monde par un émissaire du Hachkroun que j'avais pris à partie il y a quelques semaines.
C'est triste.
Au terme de nos échanges, j'ai pu comprendre la réaction féroce de ces hommes entrés sur leurs compatriotes. Parce que rien ne justifie la férocité, la barbarie, la brutalité avec laquelle les forces de l'ordre se sont huées sur les étudiants. Mais écoutez, lorsqu'on nous parle des franchises universitaires, est-ce qu'il est permis aux forces de l'ordre de faire ce qu'ils ont fait hier ou bien avant-hier?
Pas du tout.
À nos
pas
frères,
du tout.
Ce n'est pas possible. On parle de Sativi. Pendant que Sativi a été arrêté et déféré devant un juge pour la prison, les mouvements ont continué au campus universitaire. Est-ce lui, depuis la prison, qu'il commandite encore cela? Mais soyons sérieux. Le Togo, c'est à nous tous. Mais j'ai comme l'impression que les vieilles habitudes, les vieilles méthodes sont toujours là. Voilà pourquoi certains comme nous, nous disons que le pouvoir n'a pas changé de main. Puisque c'est un système et le système est toujours là, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes personnes. Ce n'est pas du tout bien. L'occasion m'est donnée de lancer un cri d'alarme vers les organisations de défense des droits de l'homme, d'agir et de faire pression sur les autorités togolaises pour que Sativi et tous ses confrères et tous ses amis qui ont été arrêtés recouvrent la liberté. C'est des étudiants. Un étudiant, lorsqu'il a des problèmes, doit aller vers ses responsables. Et quand ces derniers n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins, tandis que on a de l'argent pour acheter des hélicoptères, on a de l'argent pour organiser des sommets, on a de l'argent pour faire des foutaises, on oublie les besoins sociaux et on préfère agir avec l'armée, avec les forces de l'ordre pour oppresser, opprimer encore et encore ce peuple. Non, il faut que ces organisations de défense des droits de l'homme agissent pour que ces jeunes et braves étudiants qui ont compris que personne ne viendra lutter à leur, pour leur compte recouvrent
la liberté.
La liberté. Merci Sylvain Amos. Voilà ce que je peux vous dire brièvement sur ces deux sujets. Et je tiens à encourager tout le travail, tout l'effort que vous et toute l'équipe de Canal K vous faites.
Merci.
Que le Seigneur nous garde tous et nous aide à arriver à bout de ce régime. Ce régime qui ne veut pas le bonheur des Togolais, mais qui veut s'accrocher éternellement au pouvoir. Merci à vous Sylvain Amos et merci à toute ton équipe.
En tout cas, merci beaucoup à vous également, Idelfos Akpaki. Je rappelle que vous êtes directeur du journal La Gazette du Golfe et du journal en ligne et vidéo La Gazette du Togo. Merci également à vous et bon week-end. Bonsoir.
Radio Denigbon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Et merci de votre fidélité sur le 3xw.canalk.ch et ses radios partenaires Radio Déliban FM Liberté. Le régime togolais est-il disposé à réaliser les réformes politiques? La perspective d'un rapprochement entre deux grandes entités de l'opposition va-t-elle contraindre le pouvoir de Fonia Simbé à opérer les réformes? Eh bien, mes auditeurs, dans un débat qui se fera tout à l'heure, Monsieur Jibé Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, a accepté de croiser le fer avec Dr. Yves Kouyamaïso, consultant international, coordinateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora. Eh bien, nous accueillons tout de suite en ligne, en direct depuis Lomé. Nous accueillons d'abord Jibé Bawara. Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Amos et bonsoir à vos auditeurs, notamment à nos concitoyens togolaises et togolais qui vous écoutent et qui vont cheminer avec nous au cours de ces échanges avec notre compatriote Yves Amaïzo.
Merci beaucoup. Docteur Yves Ekwe Amaïzo, bonsoir.
Bonsoir Sylvain Amos et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Monsieur le Ministre.
Merci. Eh bien, la toute première question rapidement, puisque nous avons que presque 50 minutes. La première question, je vais la soumettre au ministre Gilbert Bawara. Donc, de la caducité de l'accord politique global en passant par la toute récente réaction du président du groupe parlementaire Unir, donc au parti au pouvoir Christophe Tchao, qui conditionne l'opération des réformes politiques par la remise à zéro du compteur concernant la limitation de mandat présidentiel. Eh bien, Gilbert Bawara, comment expliquez-vous le nouveau blocage des débats en commission des lois au sujet de la proposition des lois des députés ainsi à dit et portant réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales?
Bonsoir, monsieur Amos, à nouveau, vous me donnez l'occasion là d'apporter un certain nombre de clarifications et de précisions.
D'accord.
Concernant l'accord global. Vous savez, moi, j'en étais le rapporteur. Il y avait un bureau composé de Maître Agoïbor, de Mme Sangaïwala et de moi-même en tant que rapporteur. Et donc, je suis bien placé pour parler de l'accord politique global signé en août 2006.
Tout à fait.
Bien entendu, je ne vais pas reprendre à mon compte les propos disant que l'accord politique global serait caduque. J'estime que c'est une référence politique importante qui a déterminé un certain nombre de réformes politiques institutionnelles, le processus de réconciliation nationale, et que ce processus de réforme et de modernisation de nos institutions doit se poursuivre. Mais en même temps, je ne veux pas que nous fassions du fétichisme ou du dogmatisme avec l'accord politique global. Avec ou sans accord politique global, la question des réformes reste pertinente dans notre pays.
Tout à fait.
Nous avons l'obligation de nous poser la question de savoir est-ce que la manière dont les institutions sont organisées fonctionne nous permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs et de relever les défis auxquels notre pays est confronté. Quand je dis objectif, il s'agit bien entendu à la fois de renforcer et consolider l'unité et la cohésion nationale. Il s'agit de réaffirmer les valeurs démocratiques, les principes démocratiques et de l'état de droit. Et bien entendu, il y a un certain nombre de questions qui doivent aussi nous déterminer dans cette réflexion, c'est de savoir, pour moi, la réforme constitutionnelle et institutionnelle n'est pas une finalité en soi, ce n'est pas un but ultime, mais ça doit être un moyen permettant à notre pays de s'organiser du point de vue des institutions et de son fonctionnement, pour nous permettre de répondre aux aspirations et aux défis de notre pays. Voilà ce que je dirais concernant un D'accord. peu la question de savoir si l'APG est caduque ou n'est pas caduque. Pour moi, ça reste une référence politique majeure.
D'accord.
Et essentiel de persévérer et de préserver la dynamique des réformes. Deuxièmement, il y a eu, bien entendu, un échec des réformes en 2014. Pour moi, cet échec-là doit être mis sous le compte d'une conjonction de circonstances et de facteurs. Le premier élément, je voudrais rappeler, et j'étais au dialogue de Togo Télécom sous l'autorité de Monseigneur Barriga. Quand nous avons discuté, il est apparu qu'il était possible de parvenir à un compromis et même à un consensus pour opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il y avait essentiellement deux points de blocage. L'un des points de blocage était le mode de scrutin à l'élection présidentielle et le deuxième point de blocage était la limitation du mandat. Lorsque le gouvernement a préparé un projet de réforme constitutionnelle et a envoyé à l'Assemblée nationale, la question du mode de scrutin n'était pas inclue. Et donc, arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, il est apparu que si la majorité faisait un effort d'ouverture et de compromis sur ce point, il serait possible de trouver un compromis global et sur le mode de scrutin et sur la limitation du mandat présidentiel. Malheureusement, Nous avons eu un certain nombre de pseudo-juristes qui sont, à mon avis, plutôt des apprentis charlatans, qui ont prétendu que il y aurait un principe d'application immédiate et que la demande, qui est une demande légitime, de la majorité consistant à s'assurer que pour éviter des polémiques et des controverses ultérieures, précisons dans la réforme que la réforme dispose pour l'avenir, ce qui est un principe élémentaire du droit que j'ai étudié en Suisse.
D'accord.
Et donc, c'est en raison de ce blocage, de cette obstination de l'opposition à refuser de consacrer un principe général qui veut que la réforme, la révision ou toute loi dispose pour l'avenir, voilà une des raisons qui a été à l'origine de l'échec.
D'accord.
Deux autres raisons qui justifient l'échec de 2014. La deuxième raison, à mon avis, c'est le radicalisme et l'intransigeance d'un nombre de partis et d'acteurs politiques. Et la dernière raison vient à la proximité de nos débats à l'époque avec le scrutin présidentiel. Il est évident que lorsqu'on ouvre ce genre de débat, qui met aux prises un certain nombre d'intérêts politiques, de préoccupations des acteurs politiques, c'est difficile d'avoir le climat de sérénité et le climat dépassionné nécessaire pour approfondir les échanges et aller vers une réforme qui soit dépersonnalisée. On a
d'accord,
toujours cherché à personnaliser.
Okay.
Et toute personnalisation de ce genre de débat ne peut aboutir à l'échec. Les gens voulaient éliminer certains candidats par des méthodes détournées en voulant que la réforme soit rétroactive. Les calculs et les stratégies électoralistes et partisans, notamment de la part de l'opposition, tous ces facteurs-là ont conduit à l'échec de la réforme.
D'accord.
J'espère que nous aurons le temps de revenir maintenant sur la question telle qu'elle se pose aujourd'hui, parce qu'il me semble important maintenant de reposer le problème et de dire quelle est la situation aujourd'hui.
D'accord. On a compris votre position, J.B. Bawara. Je rappelle que vous êtes ministre de la fonction publique du travail et de la réforme administrative. Eh bien, ce débat, vous allez le faire, bien vous allez le faire avec Dr. Yves Kouyamaïso, qui est consultant international, coordonnateur du collectif pour la vérité des unes, CVU Togo Diaspora. Eh bien, et Dr. Yves Ekouyamaïso, vous avez écouté le ministre J.B. Bawara, qui est une personnalité très influente du gouvernement togolais. Alors, le ministre, est-ce que le ministre Bawara vous a-t-il convaincu dans sa réponse concernant le blocage des réformes politiques à l'Assemblée nationale? Et là, jusque-là, Dr. Yves Ekouyamaïso, et le pouvoir et l'opposition se rejettent mutuellement la responsabilité du blocage. Alors, vous êtes aussi un homme de droit, puisque docteur en droit. Alors, que dit la loi sur la rétroactivité si, par exemple, les réformes se faisaient selon l'APG?
Merci beaucoup, Sylvain. Je voudrais quand même que nous remettons tout ceci dans un contexte. D'abord, temps de parole de Monsieur le Ministre soit le même pour moi-même.
Il n'y a pas de souci, allez-y.
Beaucoup de choses ont été dites.
D'accord.
Et je vais essayer d'être simple et clair. Je crois comprendre que Monsieur le Ministre Bawara n'a pas de problème et même accepte le principe que l'accord politique global reste d'actualité. Donc, ce n'est pas caduc.
D'accord.
Ce n'est pas la même chose que dit un certain nombre de membres du Parti Unir ou RPT. Mais restons sur ce qu'a dit M. Bawara. Donc, si ce n'est pas caduc, il va falloir réfléchir comment on le met en œuvre. Et la mise en œuvre pose un problème très simple. Nous qui sommes dans la diaspora, il faut savoir que M. le ministre parle à un fantôme. M. Amaïso est un fantôme pour M. le ministre. Pourquoi? Parce que ce gouvernement et les gouvernements successifs de tout ce système militaro-civil n'a jamais voulu faire que la diaspora togolaise, 2,5 millions d'individus, puisse d'abord être recensée, ensuite avoir un droit de vote, et donc de pouvoir parler à égal avec Monsieur le ministre aujourd'hui. Cela étant dit, nous continuons à faire en sorte que l'objectif recherché, autant par le système que représente M. Bawara et nous, c'est que le peuple togolais aille mieux. Et pour qu'il aille mieux, il va falloir lui donner une alternative à des situations sociales, économiques, aujourd'hui droits humains, qui ne sont pas, en tout cas au niveau que chacun pourrait et souhaiterait l'avoir dans le pays. Nous irons dans le détail tout à l'heure. Ce point étant dit, je vais prendre rapidement tous les points qui ont été dits. Il faut être clair avec les populations togolaises. Quand les membres de l'opposition au Parlement, il s'agit de l'ANC et de ADI, demandent qu'on puisse avancer sur les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, il y a deux points qui font problème. Monsieur le ministre l'a dit, la notion de limitation du mandat présidentiel et bien sûr tout ce qui est une histoire d'organisation électorale. Il ne faudrait pas que l'un et l'autre deviennent un moyen de faire pression, c'est-à-dire nous sommes au courant qu'il est question de mettre en place une constitution de 2 fois 7 ans. Je dis bien 2 fois 7 ans. Qui va commencer en 2020. Ce qui nous amène Fonia Singbe au pouvoir jusqu'en 2034. Avec des modifications possibles, donc ad aeternam. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Et c'est pour ça que, de manière générale, depuis l'accord global, politique global 2006, chacun, gouvernement comme opposition, on joue un jeu dans lequel le temps a gagné sur tout le monde. Le CVJR qui a été mis en place, très bien. Sauf que quand c'est devenu Ashkroum, deux notions fondamentales pour la diaspora et pour les Togolais ont disparu. La vérité, la justice. Comment un ecclésiastique qui dirigeait CVJR pouvait ne pas mettre en valeur la justice? Si Dieu pardonne, il pardonne sur la base de la justice. Mais ça a été enlevé. Donc, ce que propose le système que M. Bawara défend, il n'y a ni la vérité, ni la justice. Il y a ce qu'il a dit, la réconciliation, en payant les gens. Il s'agit de payer les gens. D'ailleurs, le nombre de gens retenus dans le rapport CVJR est d'une 20 000 de personnes. Et les montants...
On va revenir sur cette question de réconciliation. Parlons de la question des réformes d'abord. Yvan Maïzo.
J'y suis parce que tout ceci est un ensemble. Donc, pour clôturer, on va avancer sur le dossier. Telle que la situation est aujourd'hui, depuis 2006, ce gouvernement et ce système que défend M. Bawara ne peut pas nous faire croire qu'ils veulent un système équitable. C'est de ça qu'il s'agit. Un système équitable. Que le meilleur gagne sur la base de la vérité des urnes. Ce n'est pas ce qui est en train d'être organisé. Et il s'agit de gagner du temps. Alors, si c'est ça où je me trompe, et que si c'est ça qui constitue l'état de droit, il faudrait peut-être que on puisse en discuter.
D'accord.
Donc, ma position, elle est simple. Celle de beaucoup de personnes, autant au Togo que dans la diaspora, pas des échecs des réformes dont il s'agit. C'est un refus des réformes. Et ce refus ne peut pas être attribué à l'opposition. Parce que si le gouvernement voulait, il suffisait de ne pas toucher à la constitution de 1992, qui avait été approuvée par l'ensemble de la population togolaise, et qui s'appliquait de manière quasi équitable.
D'accord.
Et s'inscrit. La vérité des urnes sortie de la Constitution de 1992 ne peut pas, ne pourra jamais donner une majorité à une minorité qui, avec les forces militaires dites de sécurité, sont en train de créer la peur au Togo et de mettre des pauvres étudiants en prison pour essayer d'éviter qu'on puisse mettre en cause le fait de se préserver, conserver le pouvoir ad aeternam.
Docteur Yves Ekwer-Maison, on a compris également votre position. JB Baoura, vous l'avez suivi, et Docteur Yves Ekwer-Maison, donc pour lui, le pouvoir refuse d'opérer ces réformes. Là, on veut comprendre un cas de cité et remettre le compteur à zéro. Et bien, selon nos informations, JB Baoura, les députés ici du parti du pouvoir unir refusent de proposer des amendements aux textes soumis et par le groupe parlementaire ANCE Hadi. Est-ce que vous confirmez? Là, on voulait savoir juste quelle est la vraie position de votre parti sur le sujet, si des réformes, si on se rappelle qu'il y a eu un rejet par vos propres députés d'un projet de loi portant sur la réforme introduite par votre gouvernement. JB Baoura.
Merci, M. Amos. Je ne veux pas faire non plus de confusion et sauter du coq à l'âne. Je veux être précis et concis.
Allez-y.
Je voudrais d'abord rappeler que moi, je ne fais pas de l'accord politique global un dogme ou quelque chose d'immuable ou de fétichiste. De la même manière que la constitution dite originelle de 1992 n'était pas destinée à rester figée. Alors que le monde évolue, alors que la société togolaise évolue, qu'il y a beaucoup de mutations, toute constitution, au Togo comme ailleurs, est appelée à s'adapter aux circonstances et aux évolutions. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je voudrais rappeler ce que j'ai dit, que la tentative de réforme de 2014 a échoué en raison d'une conjonction de facteurs et de circonstances. L'une des circonstances étant qu'il y a les amis et les frères de l'opposition qui ont développé des théories qui ne tiennent pas debout. Vous avez posé une question à M. Yves Amaïzo. J'espère qu'il va répondre à cette question tout à l'heure concernant la théorie dite de l'application immédiate que certains avaient évoquée. Et je sais qu'il est un bon juriste. Moi, j'ai étudié le droit en Suisse. Je n'ai jamais appris ça. Une loi peut elle-même consacrer la rétroactivité. Ça, c'est possible.
JB Baoura, je vous coupe un petit peu parce que là, je pense que vous tournez en rond là. Et quelle est la vraie position de votre parti? Alors, écoutez-moi bien, monsieur le ministre. Hein. Ah, écoutez-moi, en conditionnant, écoutez-moi. Hein.
Écoutez, si vous n'avez pas envie de m'écouter, je vais raccrocher.
Non, je vous écoute.
Il faut développer ses arguments. Vous me laissez développer mes arguments.
Vous allez les développer. Répondez aux questions.
Je rappelais cela. Je rappelais les circonstances de l'échec de la tentative de réforme pour dire que c'est regrettable qu'à l'époque, des gens aient eu des comportements radicaux et intransigeants.
D'accord.
Qui n'ont pas perdu. Maintenant, la situation d'aujourd'hui. Monsieur Amos, c'est le président de la République qui est considéré comme le leader du Parti Unir, et donc, en quelque sorte, le leader de la majorité parlementaire actuelle. Ce président de la République a mis en place une commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Un certain nombre de partis, pas tous, de l'opposition, notamment l'ANC, a pratiquement désavoué cette commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnel, et décide avec la collaboration d'autres partis d'introduire un projet de modification constitutionnelle à l'Assemblée nationale ou de reprendre un débat qui existait. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez comme comportement de la part des députés de la majorité?
D'accord.
Ils désavouent le président de la République qui a mis en place une commission de réflexion.
D'accord.
Cette commission est en train de travailler. La logique aurait voulu que chacun collabore et contribue à ces réflexions, que nous ayons un débat approfondi, que toutes les réflexions, tous les éléments, toutes les propositions soient faites à cette commission, et une fois que cette commission a fini son travail,
d'accord,
il y aura un débat qui va se poursuivre.
D'accord, on vous comprend, JB Baoura. Donc, vous pensez que l'opposition est vraiment radicale, mais JB Baoura, en conditionnant les réformes, hein, par la non-rétroactivité de la loi concernant la limitation du mandat présidentiel, est-ce que vous ne remettez pas en cause la question de l'alternance au Togo? Alors, que vous inspire alors ce que disent beaucoup d'observateurs africains? Et pas de démocratie sans alternance. Et alors là, le régime est de Nyasi Mbe faisant quand même déjà 50 ans au pouvoir, hein, JB Baoura.
Écoutez, le principe de la non-rétroactivité, c'est pas M. Gilbert Baoura qui le dit. je vous dis que le principe général du droit veut que la loi dispose pour l'avenir. C'est pas Gilbert Bora qui a inventé ce principe général du droit. Le problème se pose avec ceux qui voudraient enfreindre à ce principe général du droit, en voulant qu'une réforme soit rétroactive. Donc s'il y a une difficulté qui se pose, c'est ceux qui voudraient déroger à ce principe général du droit. Deuxièmement, je vous dis, aujourd'hui, il y a un travail qui se fait au niveau de la commission de réflexion, et que si d'aventure les députés de la majorité devaient accepter de débattre et de délibérer à l'Assemblée nationale concernant l'initiative des partis de l'opposition, cela reviendrait à désavouer le président de la République, à remettre en cause la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et le travail qu'elle est en train d'effectuer. Alors qu'il est possible de faire en sorte que chacun des partis politiques, et même la société civile, les forces vives, les autorités religieuses, les personnalités politiques, et même vous, les concitoyens togolais et togolais de la diaspora, si les gens ont des idées, des contributions à apporter à ce travail de la commission de réflexion, une fois que ce travail est fini, il y aura un débat. Et contrairement à ce que M. Amaïso dit...
D'accord. Cette
commission n'a pas encore évolué. Et l'histoire d'un mandat de 7 ans renouvelable une fois, qui commencerait à partir de 2020, est une pure invention. Mais je comprends qu'il n'est pas sur le terrain. Mais je l'encourage à ne pas lire tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Qu'il cherche à s'informer.
D'accord.
Cela n'existe que dans l'esprit d'un certain nombre de personnes.
D'accord.
Je n'ai jamais vu nulle part écrit qu'il y aurait un projet visant à consacrer un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois à commencer à partir de 2020.
D'accord. Jébé Bahora, on va aussi donner la parole au docteur Yves Ekwe Amaison, je le rappelle, il est consultant international, coordinateur du collectif pour la vérité des urnes CVU Togo Diaspora. Docteur Yves Ekwe Amaison, vous avez suivi le ministre Jébé Bahora, donc il parle de commission pour pouvoir plancher sur ces réformes-là. Alors, le pouvoir et l'opposition ne s'entendent pas surtout sur la limitation de mandat présidentiel. Alors, docteur Yves Ekwe Amaison, estimez-vous que le pouvoir soit, quant à lui, dans une logique de conservation du pouvoir?
Alors, je vais répondre à votre question, mais le ministre Bahora a posé un certain nombre de points, je vais y répondre.
Exactement, allez-y.
La notion de non-rétroactivité. Personne ne conteste cela. Il y a des textes de droit où vous avez la rétroactivité, il suffit de le voter. Si on n'en veut pas, il suffit aussi de le voter. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? S'il y a des propositions des partis minoritaires à l'Assemblée qui se fait, que le pouvoir soit d'accord ou pas d'accord, à la rigueur, ce n'est pas important. Un Parlement fait pour discuter, finalement prendre une décision avec un vote. La commission de réflexion que le chef d'État a mis en place et que, quand on suit bien, M. Christophe Chao, votre représentant du Parti Unir, qui est donc le chef de groupe là-bas, a dit, et de manière précise, qu'il n'a pas bloqué le mécanisme. Il a seulement ajourné. Donc, il est question de stopper le débat parlementaire, de sortir cette discussion et le mettre dans une commission. Seul le chef unilatéralement a décidé. Je ne pense pas qu'il y ait eu des votes pour mettre en place cette commission de réflexion. Et à l'intérieur de cette commission de réflexion, ce sont des gens qui ne sont pas élus, qui vont faire des propositions, puisque M. Bahora vient de dire que ça peut être élargi à la société civile et un peu à tout le monde. Et quand on aura trouvé un accord sur ce document, il va revenir à ce moment-là au Parlement, ce qui veut dire que les amendements que pourrait y faire ou pas l'opposition devraient être pris en compte ou pas au moment de la commission de réflexion. Ce qui veut dire alors, vous m'entendez?
Allez-y, alors, allez-y, oui, on vous attend, allez-y.
Ça veut dire que le système qui est en train de se mettre en place est en train de sortir la discussion normale, légale au Parlement, vers une commission ad hoc, choisie par le chef d'État. Quel que soit l'objectif recherché, on doit pouvoir être d'accord qu'il ne s'agit plus des représentants du peuple togolais qui vont faire d'abord les propositions, cette réflexion, et en fait, à la fin, faire la décision. Ça, c'est le deuxième point auquel je voulais répondre. Le troisième, cette histoire de l'application immédiate. Pour appliquer quelque chose, il faut avoir eu un texte, et que ce texte a été modifié ou est en voie de modification, en soi ne pose pas de problème. Ce dont il est question, c'est que les gens mettent en doute la qualité neutre de cette commission de réflexion. Si cette commission de réflexion avait été faite sur des bases paritaires, dans lesquelles chacun a eu la possibilité de voir qu'il sera réellement représenté, et que son point de vue sera pris en compte et non pas rejeté en commission, ce qui veut dire que le texte qui va rentrer au Parlement sera un texte sur lequel la plupart des amendements auront été éjectés au moment de la commission de réflexion, vous comprenez bien que ce soit normal que quelqu'un qui semble et qui pense qu'il ne sera pas représenté dans cette commission n'y aille pas. Je ne suis pas là pour défendre l'opposition, nous sommes de la diaspora indépendante. Donc, nous ne cherchons pas à défendre. Nous essayons de montrer que les processus et les procédures qui sont mises en place ont tendance à simplement favoriser de manière unilatérale le système unir. Enfin, et je finis là-dessus, la notion de vote. Nous sommes, d'après le Togo, en démocratie. Mais quel est le problème de soumettre un texte? Puisque il y a une majorité automatique de la majorité présidentielle au Parlement. Donc, si le texte et les amendements ne vous conviennent pas, au moins que le vote ait lieu et que publiquement chacun sache au Togo que vous avez rejeté tel ou tel ou tel aspect qui ont été proposés. Maintenant, revenons sur le fond. Le fond, c'est quoi? C'est bien la réforme du mode de scrutin. Hein, le découpage électoral sur lequel les gens ne sont pas d'accord du tout. Hein. Un Togolais doit pouvoir être représenté partout où il est, y compris dans la diaspora, parce que sur ce point de la diaspora, Bawara, vous n'avez pas répondu. 2,5 millions d'individus sont exclus. Vous parlez encore à un fantôme, je vous le répète. Et la deuxième chose, le mandat présidentiel, les mandats prévus dans 1982, la constitution 1992 ont dépassé, puisque les mandats de M. Fognasigbe sont dépassés, mais à la rigueur, continuer, c'est que ça se fasse sur la base de la vérité des urnes. Là-dessus, vous permettez de dire que si on lit la plupart des rapports internationaux, mais aussi certains africains, y compris même la CEDEAO, surtout quand vous les approchez à huis clos, les vérités sortent. Donc le problème est de savoir comment pouvez-vous garantir que les prochaines élections locales que vous n'avez jamais faites jusqu'à maintenant, législatives qui vont venir, on espère, et présidentielle prochaine, se faire sur la base de la vérité des urnes.
D'accord. Merci, docteur Yves Kouamézo. On va continuer ce débat, mais à vous, auditeurs et auditrices qui nous suivez sur le 3xW.canalca.ch, également émission 5 sur Radio Dénigment, sachez que vous êtes dans un débat autour des réformes au Togo. Les populations togolaises espèrent toujours ces réformes. Le régime togolais est-il disposé à réaliser ces réformes politiques? La perspective d'un rapprochement entre deux grandes entités de l'opposition va-t-elle contraindre le pouvoir de Fognasigbe à opérer ces réformes? Nous en débattons avec J.B. Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, et docteur Yves Kouamézo, consultant international, coordonnateur du collectif pour la vérité des urnes, CVU Togo Diaspora. Eh bien, J.B. Bawara, vous avez suivi la réaction du docteur Yves Kouyamaison qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Et le régime pour bon nombre de Togolais s'est uni qui refuse effectivement d'opérer ces réformes. L'opposition le dit aussi. Et là, l'opposition l'a plusieurs fois dit que c'est uni qui refuse d'opérer ces réformes là, surtout sur la limitation du mandat du président de la République. Et je précise, Jibé Bahora, que le président Fonia Simbé avait refusé d'adhérer au principe de limitation de mandat et de bonne gouvernance au sein de la CEDEAO qu'il préside aujourd'hui. Et nombre de panafricains estiment que Fonia Simbé gagnerait en crédibilité en tant que président en exercice de la CEDEAO s'il opérait ses réformes selon l'accord politique global. Quelle est votre réaction, Jibé Bahora?
Merci, Amos. Je voulais dire apporter un certain nombre d'éclairages, d'éclaircissements et de précisions.
Allez-y.
Vous savez, moi je comprends M. Yves Amaïdo et tous ceux qui estiment que on devrait débattre de la proposition de réforme introduite par l'ANC et un groupe de partis politiques de l'opposition, quitte à ce que ce soit rejeté, et ensuite on débattra du travail qui est en train d'être effectué par la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Moi, je crois qu'il faut cesser d'agir par caprice ou par provocation. Quel intérêt nous aurions à multiplier les débats au lieu d'attendre un débat global, des discussions d'ensemble, y compris concernant les conclusions et les recommandations ou propositions de la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles? Quel intérêt nous aurions? Et j'ai dit quelque chose qui me paraît assez fondamental et qu'il faut bien retenir. Je ne vois pas et il n'est pas logique d'imaginer une majorité parlementaire agir et se comporter d'une manière qui consisterait à désavouer et à remettre en cause l'initiative de la mise en place d'une commission de réflexion constitutionnelle et institutionnelle voulue par le président de la République. Par ailleurs, président du parti Unir, dont ces députés sont issus. C'est une logique. À moins de chercher à créer de manière tout à fait artificielle une crise politique et institutionnelle au sein du parti. Il y a une discipline du parti, le président du parti. La majorité parlementaire qui est issue de ce parti ne peut pas et ne doit pas agir d'une manière qui reviendrait à désavouer ce travail-là. Que la NEC ait décidé de débavouer la commission, c'est son droit le plus absolu.
D'accord.
Nous aurions aimé que la NEC puisse accepter de contribuer et d'apporter des réflexions au travail de la commission. Donc c'est une question de principe. Et deuxièmement, je pense qu'il est beaucoup plus sain et qu'il est beaucoup plus judicieux de préconiser et d'évoluer vers un débat global des discussions d'ensemble plutôt que de débattre d'abord de la proposition de la NEC et de Adi et autres, et ensuite maintenant de débattre des idées qui seraient issues du travail de la commission de réflexion. Ça, c'est la première clarification que je voulais faire.
D'accord.
Deuxièmement, le travail de la commission de réflexion ne remet pas du tout en cause le rôle du Parlement. Au contraire, l'existence de cette commission de réflexion ouvre la possibilité d'un débat large et approfondi parce que n'importe quel citoyen togolais, qu'il soit à l'intérieur du pays ou qu'il soit à l'extérieur, et je voulais rassurer M. Amaïdo, pour moi, il n'est pas un fantôme, c'est un concitoyen. Je lis avec beaucoup d'intérêt et d'attention ses contributions.
Mais Jibé Bahora, le pouvoir togolais n'a jamais compté la diaspora, n'a jamais recensé la diaspora.
Je reviendrai là-dessus. Pour moi, c'est un citoyen parent, comme nous qui sommes sur le territoire.
D'accord.
Je voulais tout simplement dire que le travail de la commission de réflexion ne remet pas en cause le travail de l'Assemblée nationale et le débat parlementaire. Au contraire, ça ouvre la possibilité d'un débat beaucoup plus riche avec la contribution et des partis politiques et personnalités extra-parlementaires et même religieuses et de toutes les personnalités, notamment des forces vives du Togo. Mais pas que ce travail est fait. Que des idées sont proposées, que des contributions faites, y compris par ceux qui sont porteurs de la proposition d'aujourd'hui. même si ces propositions sont rejetées, mais quand le texte ira à l'Assemblée nationale, parce que nécessairement ça ira à l'Assemblée nationale, mais ils peuvent encore réintroduire leur amendement. Et le sort qui leur aurait été réservé actuellement, c'est le même sort qui leur serait réservé si ces amendements auraient été acceptés.
D'accord.
Il n'y a pas de raison introduit dans le cadre des conclusions et des propositions de la commission, ces amendements soient rejetés.
D'accord. On a compris votre position sur cette commission pour aboutir aux réformes politiques. Et Jibé Bawara, si vous répondez tout droit à mes questions, ce sera aussi bien pour nous dans ce débat. Je vous avais posé cette question. Nombre de panafricains estiment que Fonia Simbé gagnerait en crédibilité en tant que président en exercice de la CEDEAO s'il opérait ses réformes selon l'accord politique global, puisque vous-même, vous venez de le dire que l'accord politique global n'est pas caduc. Jibé Bawara.
Vous savez, c'est votre droit le plus absolu de vous de mettre votre opinion sur la situation politique, la crédibilité des dirigeants de tel ou tel pays. Moi, je préfère la démocratie réelle. Les possibilités qui sont offertes, comme nous le faisons en ce moment, de débattre, d'échanger sur les problèmes de notre pays. Pour moi, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, ce n'est pas une question qui doit être personnalisée. On ne fait pas les réformes constitutionnelles et institutionnelles parce que ça va plaire à M. Fonia Simbé, ça va améliorer sa crédibilité. On ne le fait pas parce que ça va faciliter l'accès au pouvoir de tel ou tel citoyen, on le fait parce que notre pays en a besoin.
D'accord.
Nous devons agir dans le sens de l'intérêt du pays. Comment nous agissons pour renforcer la cohésion du pays, l'unité du pays? Comment nous organisons les institutions et nous les faisons fonctionner de manière à ce que la bonne gouvernance, l'état de droit, le développement, la prospérité et le bien-être partagé soient au rendez-vous? Tout ce débat-là qui consiste à dire les réformes, ça aiderait à la crédibilité de telle ou telle personne. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là.
D'accord.
Et vous, dans notre sous-région, même en Afrique de l'Ouest, là, nous avons des pays où, du point de vue formel et légal, on peut dire que c'est de bonne démocratie, mais dans la réalité, dans la pratique quotidienne.
D'accord.
Dans le quotidien, ce n'est pas ça qui est en train de se passer.
D'accord.
Et moi, je pense que le débat qui a lieu au Togo nous permettra, en définitive, d'opérer les réformes, de moderniser nos institutions, de faire en sorte que nous puissions évoluer dans le sens de la réaffirmation des libertés, des principes et valeurs démocratiques.
D'accord.
Et même l'alternance, que certains appellent de leur deux. Mais l'alternance, ça doit être à la fois une alternance démocratique et par la voie des urnes.
D'accord.
Et donc, ce que nous définirons en définitive. En 2000, le Togo avait indiqué qu'il fallait consacrer l'alternance, j'aurais voté pour un autre candidat.
D'accord.
Monsieur, il vous parle de la vérité des urnes. Vous savez, moi, j'étais ministre de l'administration
territoriale. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Vous avez eu l'argent, eu le temps. On va revenir sur la vérité des urnes. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Eh bien, docteur Yves Ekweamaizo, partagez-vous cette opinion de ces observateurs qui pensent que Fonia Simbé gagnerait en crédibilité en tant que président en exercice de la CEDEAO s'il opérait les réformes politiques selon l'accord politique global?
Alors, d'abord, je constate qu'on est d'accord avec M. le ministre Bawara et le système qu'il représente sur une chose. On est d'accord que le Togo a besoin de réformes institutionnelles, etc. C'est le seul point d'accord que nous avons pour le moment. Sur la notion de crédibilité, votre question, il faut compléter votre question. Crédibilité par rapport à qui ? Vous savez, la présidence tournante de la CEDEAO ou n'importe quelle institution régionale ou sous-régionale, c'est généralement planifié d'avance. Et vous n'avez pas beaucoup de budget et souvent vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses. Mais si les chefs d'État de la sous-région, donc de la CEDEAO, les 15 pays, attribuent cela au Togo, c'est au Togo et non pas un individu. Celui qui aujourd'hui représente le Togo se trouve à être Fonia Simbé. Donc, je dirais que la crédibilité est du côté des chefs d'État de la sous-région. Maintenant, si vous parlez de la crédibilité de la population, qui, elle, se dit le seul chef d'État qui refuse d'accepter le principe de deux mandats et on s'en va, s'appelle Fort Niassingbé. Alors là-dessus, je pense que la crédibilité des Togolais et des Togolaises sur ce point particulier pose problème. Mais c'est libre à celui qui occupe ce poste de modifier cela. Le deuxième point, je voudrais faire un point droit. Vous savez, quand vous êtes au Parlement, il y a deux façons de faire entrer des lois. Ce qu'on appelle la proposition de loi qui vient des députés, qui représentent le peuple. Et vous avez le projet de loi qui vient du gouvernement ou du chef de l'État. Ce que dit monsieur le ministre Bawara, c'est qu'il y a en fait une proposition de loi qui vient des députés, il se trouve que ce soit ceux de l'opposition, le groupe ANC et le groupe ADI, ensemble, que soit sous la forme de modification d'amendement, mais ça vient des députés. Et il y a une proposition qui est celle de chef d'État, travaillée avec son groupe UNIR, qui doit passer par la commission de réflexion. Jusque-là, je ne vois pas de problème en soi. Le problème vient que on veut imposer le projet de loi, c'est-à-dire qu'il vient du président et donc du gouvernement, à l'ensemble du Parlement, sous prétexte qu'on veut gagner du temps, sous prétexte que maintenant l'ensemble des citoyens de la société civile vont mettre leur nez dans ce dossier, en sachant d'ailleurs que c'est pas n'importe qui va pouvoir comprendre ce qui traite en fait ces éléments-là. Il faut quand même avoir un minimum. Quand on parle de commission, il y a quand même un minimum de monde de compétences derrière pour pouvoir modifier ou amender ou faire des propositions. Et que ce débat large dont on parle, qui peut être même étendu à la diaspora, suppose que cette diaspora elle-même soit d'abord recensée, comptée et qu'il y ait le droit de vote. Ce qui n'est toujours pas le cas et que M. le ministre ne veut pas répondre à cela. Nous sommes donc toujours, M. Amaïzo est un fantôme. Et les 2,6 millions ou 7, vraiment. Toujours des fantômes.
D'accord.
Alors, le dernier point, s'il y a proposition de loi et projet de loi venant du gouvernement, proposition de loi venant du Parlement, sincèrement, je ne vois pas pourquoi il doit avoir ce grand débat. Ça n'empêche pas le débat large d'avoir lieu, sincèrement. Par contre, il est fort probable que ça va faire gagner du temps. Et ce temps, depuis 2006, cette proposition, cette commission aurait pu avoir lieu. On est passé par des détours, CVJR, HCROM et bien d'autres encore. Il n'est pas encore un autre détour du contre-détour, comme les Canadiens disent, le contournement du contournement.
D'accord.
À force de contourner, on fait du surplace. Alors la question est de savoir, est-ce que ce gouvernement fait du surplace pour le peuple togolais? Parce que si c'est du surplace, tout ce qui aspire, tout ce qui vient d'être dit, d'aller vers des réformes, risque de faire du surplace.
Exactement.
Et je finis sur un dernier point, qui est très important. Personne n'est contre la commission de réflexion en tant que telle. Le problème est que cette commission, la façon dont elle a été structurée, organisée, n'est pas sur une base paritaire. N'est pas nécessairement sur une base aussi des gens qui sont neutres par rapport au dossier dont on parle. Parce que les positions qui vont sortir vont engager et vont avoir des gagnants et des perdants. Alors, ceux qui sont déjà minoritaires, ils ont l'impression qu'ils vont déjà perdre. Comment voulez-vous qu'ils vous participent activement ou proactivement, comme disent les Anglais, à cette commission de réflexion? Donc, encore une fois, la commission de réflexion qui est en cause, il peut venir du président de la République, il peut venir du gouvernement, c'est prévu par les textes de loi. Ce qu'on ne comprend pas, pourquoi quand ça vient des parlementaires, notamment de l'opposition, il y a systématiquement, en fait, un blocage. Laissons les gens s'exprimer et votons pour ou votons contre. Et à ce moment-là, le peuple verra de
France
chacun. Et ben là, je peux aussi avoir lieu après.
D'accord. Docteur Yves Ekouyabaïso, merci. On va continuer ce débat. Il nous reste que 10 minutes. Alors, on va plus revenir sur ce sujet de commission puisque, et pour opérer ces réformes, puisque beaucoup de Togolais ne croient pas à cette commission. Et nos auditeurs ont laissé beaucoup de questions sur notre messagerie WhatsApp et sur notre page Facebook puisque nous n'avons pas tellement l'habitude ou bien les autorités togolaises n'ont pas tellement l'habitude d'intervenir dans cette émission panafricaine. Alors, JB Bawara, tout de suite, suite une question d'un auditeur par rapport à la vérité des urnes et les découpages électoraux. Alors il dit, hein, ça c'est une question d'un auditeur, hein, ici depuis Espagne, hein, si je me trompe, il dit, hein, pourquoi le découpage des régions est-il encore tribaliste, électoraliste au détriment du développement et de la cohésion sociale? La banalisation de l'impunité de crimes économiques et des crimes de sang des auteurs du régime RPT uni ne constitue-t-elle pas une gestion arbitraire chronique? C'est là une question d'un auditeur à Jibé Bawara. Et vous allez essayer de répondre à cet auditeur, Jibé Bawara.
Merci, ça, moi, je vais aller très vite. Mais excusez-moi et permettez-moi de revenir seulement avec deux mots sur la commission. Juste deux mots et je vais répondre.
Juste deux mots.
Je voulais préciser que la commission de réflexion sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles n'est pas une constituante. Ce n'est pas elle qui va décider des réformes. Deuxièmement, je voulais dire que les conclusions et les propositions de cette commission de réflexion seront toujours sujettes au débat et à des amendements et à des améliorations. En troisième lieu, je suis d'accord avec M. Yves Amaïto qu'il n'est pas question d'imposer à qui que ce soit les propositions et les conclusions qui seront issues de la commission de réflexion. Mais inversement, je ne comprends pas pourquoi il imagine que l'opposition qui est aujourd'hui minoritaire au plan politique cherche à imposer son point de vue à la majorité au point même de vouloir conduire cette majorité à désavouer et à remettre en cause une décision et une initiative fondamentale du président de la République. Maintenant, pour revenir au découpage électoral.
Justement.
Ma condition a toujours été, et je l'ai dit tout au long de nos débats, que nous devons œuvrer à renforcer l'unité et la cohésion du pays et nous sentir, quels que soient nos lieux de naissance et d'origine, qu'on soit aujourd'hui sur le territoire national ou à l'extérieur, comme des Togolais à part entière. Les partis politiques sont censés avoir une implantation nationale. De Saint-Cassé à Aného, de Badou à partout sur le territoire national, tous les partis politiques doivent chercher à conquérir l'électorat où qu'ils se trouvent. Alors, je ne sais pas, on parle de tribalisme et de régionalisme sur la base de quoi? Sur quelle base on doit présumer qu'une localité ou une région serait un fief ou une citadelle imprenable de l'UNIR, de l'ANC, de ADI ou je ne sais pas de n'importe quel parti politique.
Mais actuellement, l'opposition dénonce cela. L'opposition est en train de dénoncer ça.
Justement, je me dis, quel que soit le découpage, les partis politiques doivent se battre partout sur le territoire national pour conquérir les voix. Il n'y a aucune localité, il n'y a aucun groupe de citoyens qui appartiendrait à un parti politique ou à un leader politique.
D'accord.
Nous devons en sortir et œuvrer davantage pour la cohésion. Deuxièmement, vous savez, tout ce qui est un peu outrancier, excessif, est nuisible et n'est pas nécessairement utile. Bon, j'entends beaucoup de choses, banalisation de l'impunité, de telles choses. Mais il y a des faits avérés. Mais même quand on n'est pas sur le territoire national, notre concitoyen qui est en Espagne, qu'il écrive à un magistrat ou à un tribunal pour dire, bon, je tiens des informations en disant
qu'il est
citoyen, même qu'il est ministre, député, ou qu'il est responsable d'une société,
d'accord,
a commis des forfaits.
D'accord. J'ai Bawara, je me permets, je suis désolé, je me permets de vous couper parce qu'on va clôturer le débat, puisque à Radio Canal Con sera automatiquement coupé. Alors pour conclure ce débat, réponse directe, question directe, réponse directe. Alors que direz-vous pour conclure ce débat? Vous avez 2 minutes. À quelles conditions les réformes se feront? Est-ce qu'il faut mettre le compteur à zéro? Est-ce qu'il faut appliquer l'accord politique global? Que direz-vous pour conclure ce débat, puisque les Togolais de la diaspora espèrent que vous disiez quand même à tous les Togolais que dit concrètement le pouvoir uni par rapport à ces réformes? Les réformes se feront ou pas? Jibé Bawara.
La première chose, les réformes sont nécessaires et indispensables parce que une société qui évolue doit toujours adapter ses institutions et de manière à ce que ces institutions répondent aux aspirations de la population. L'accord politique global reste pour moi une référence politique et même une référence morale. Parce que quand on signe un compromis de bonne foi, il faut veiller à son respect. Mais en toute hypothèse, cet accord politique ne doit pas non plus devenir la Bible ou le Coran. Entre 2006 et 2017, il y a de nombreuses évolutions, il y a eu beaucoup de changements. Et ces changements doivent être pris en compte. Deuxièmement et troisièmement, le problème n'est pas de mettre les compteurs à zéro, non. Je dis, les réformes doivent être débattues, les propositions qui seront faites seront étudiées, et il faut opérer ces réformes conformément aux attentes des Togolais et dans le principe juridique. Le principe fondamental, c'est que la loi dispose de l'avenir. Sauf disposition contraire, nous ferons des réformes et ces réformes nous permettront de nous projeter dans davantage de modernité démocratique, de réaffirmer et de renforcer les libertés et les principes démocratiques et de consolider l'état de droit dans notre pays pour que l'élan de développement économique que nous avons pris, que davantage de Togolais soient en mesure de contribuer et que nous puissions être le pôle de stabilité, de paix et de prospérité que nous avons été et que nous sommes en train de forger à nouveau.
D'accord. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat en direct depuis Lomé. Je rappelle que vous êtes ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Et bien, docteur Yves Kouyamezo, rapidement, vous avez également 2 ou 3 minutes pour conclure ce débat sur les questions des réformes, la vérité des unes, justement. Et je rappelle que vous êtes coordinateur du CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des unes. Vous avez dénoncé plusieurs fois les fraudes électorales lors des élections au Togo. Alors, y a-t-il eu lieu d'espoir qu'après l'opération de ces réformes politiques, le problème de la transparence des élections soit résolu? Votre mot pour clôturer ce débat, docteur Yves Kouyamezo.
Merci beaucoup, Sylvain. D'abord, je tiens à remercier monsieur le ministre pour ce débat cordial, puisque ce n'est pas toujours le cas quand nous discutons avec le gouvernement. Alors, la deuxième chose, il faut quand même qu'on soit clair. Un député ne peut pas être représentant de seulement 10 voix quand un député de l'opposition est obligé d'avoir 500. Donc, le découpage électoral, il faudrait qu'on revoie ça. Le troisième point qui est encore plus grave, ou plutôt qui est un souhait, et je pense sincèrement, pour la vérité des urnes au Togo, et pour le fait qu'on puisse avancer, il faut que le président Faure Gnassingbé annonce, comme le président Angola l'a fait, qu'il ne te représente pas en 2020.
D'accord.
Et le dernier point, c'est que, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu si la diaspora va être comptée, recensée et avoir le droit de vote. Ce qui veut dire concrètement que nous allons finir ce débat et je suis toujours un fantôme. Et la diaspora avec moi.
Monsieur le ministre, vous avez 1 minute. Est-ce que la diaspora sera comptée? Quelle est votre relation avec la diaspora togolaise? 1 minute seulement, 1 minute.
Non, la diaspora togolaise est une force importante.
D'accord.
Et je sais que les Togolaises et les Togolais qui sont à l'extérieur contribuent énormément à la prospérité et à l'économie de notre pays. Et bien entendu, le jour où les circonstances le permettent en termes de disponibilité de moyens, il faut faire en sorte que les Togolais de l'extérieur soient en mesure d'apporter
donc,
une contribution apportée au niveau politique.
Donc ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas pour maintenant. Donc on va devoir attendre longtemps alors, monsieur le ministre.
Ne soyez pas désespérés et ne soyez pas impatients à moi.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat en direct depuis Lomé. Yves Ekouyamezo, 1 minute pour dire un mot à la diaspora togolaise qui est nombreuse à l'écoute de cette émission. Yves Ekouyamezo, allez-y, 1 minute.
Le mot est beaucoup plus pour monsieur le ministre, parce que monsieur le ministre, votre gouvernement a créé 3 diasporas. La diaspora qui est alignée sur UNIR, la diaspora qui est silencieuse et la diaspora qui est indépendante, qui se débrouille tout seul. Il y a même une diaspora qui fait ce qu'on appelle le recto verso et qui change de camp toutes les 2 minutes. Il ne faut pas faire cela. Il faut nous amener à avoir une unité qui fasse avancer le Togo. La diaspora indépendante togolaise, elle existe. Il y a une structure qui s'appelle le Conseil mondial de la diaspora togolaise. Il y a plusieurs structures où nous sommes regroupés.
Merci.
Il n'est pas normal que vous receviez des budgets et que ce ne soit pas envoyé que nous puissions travailler sur ce genre de dossier qu'on a discuté aujourd'hui ou d'autres. Donc,
merci.
De grâce, faisons un effort que nous ne serons plus des fantômes.
D'accord. Je pense que le message est passé. Merci à toutes et à tous de rester en notre compagnie pour ce débat. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de questions à poser au docteur Yves Kouyamaezo ou surtout au ministre Jibé Bawara, ministre de la fonction publique du travail et de la réforme administrative. Mais le temps imparti est très peu. Merci, merci à vous. Je pense qu'on peut remettre ce débat dans quelques jours pour recevoir encore d'autres personnalités influentes du pouvoir au Togo. Merci à vous et très bonne continuation sur Radio Canal K et nos radios partenaires Radio Déliquement aux États-Unis. Mais quant à nous, on peut encore vous retrouver sûrement samedi prochain pour d'autres actualités sur le Togo et l'Afrique. Merci et bonsoir et bon week-end.